Bonjour à toutes et à tous. Et oui, nous sommes là de retour après quelques semaines de vacances que tout le monde n'a pas pris malheureusement. Tant pis pour vous. Et en fait, on va lancer ce podcast hors série comme promis par Plume il y a très longtemps et par moi aussi. Au sujet de la Gamescom. Alors, je sais pas pourquoi, mais Tiger, ici présent, un de nos invités, est mort de rire.
Il fait chaud, c'est parce qu'il fait très chaud. Chaud.
Alors, moi, j'ai encore plus chaud que toi, donc t'imagines dans ma tête ce qui se passe.
Tu vas être mort de
bonjour,
rire.
Bonjour, bonjour à toutes et à tous.
Ça va, ça roule?
Ça va, nickel, super
bien. Kiltran, qu'est-ce que là, ta main fait? Ah, t'as enlevé ton bandage?
Ouais, c'est presque réparé.
Voilà. Putain, fais voir, je peux le serrer dessus comme ça.
Là, ouais.
D'accord. Bon, bah, parfait. Merci, Tiger. Thomas, qui est en Allemagne à la Gamescom avec Camille.
Meet Camille.
Alors, c'était bien, t'as kiffé la vibe?
Ouais, c'était cool.
C'est vrai?
On a passé une bonne semaine, donc on a vu plein de jeux et tout, et on va vous en parler. Et pas on que des jeux d'ailleurs.
Des saucisses aussi.
Exactement.
Ouais, exactement.
Des saucisses et Plume, bien sûr, toujours fidèle au poste.
Dit la Wurst.
Exactement.
Oui, c'est vrai, on m'appelle la Wurst.
C'est vrai. Wurstman. Mm. Et il pouffait à la manette derrière, comme d'hab, aux manettes, qui va réaliser cette émission pleine de saucisses et de choucroute garnie. Alors, par quoi on commence, messieurs? Parce que moi, je suis un petit peu le naïf du coin, là.
Je débarque, jacuzzi,
j'ai suivi de loin parce que j'étais un petit peu sollicité de temps en temps. Mais
tu voulais pas dire l'idiot du village,
mais j'ai
c'est
pas
ça
tout vu, j'ai pas tout suivi, forcément. Puisque j'étais en vacances, comme vous pouvez pas le constater. Et du coup, bah, je vais apprendre plein de choses, comme vous, hein, avec tout ce que vont nous raconter ces énergumènes ici présents.
N'oublie pas d'avoir l'air étonné.
Exactement, bien sûr. Et à commencer par l'ONL. Alors c'était quoi l'ONL? Qu'est-ce qui s'est passé?
C'est comme PNL mais avec
un O,
en fait.
C'est un groupe, ils étaient number one à l'époque. C'est toi qui l'a commenté avec Philippe.
Absolument.
N'est-ce pas, sur nos antennes que vous pouvez.
Qui a disparu pendant la conférence, j'imagine. Dans un nuage de fumée.
Alors qu'est-ce que tu peux nous en dire sur cette ONL chelou?
Eh bien que c'était très long.
C'est vrai.
Ouais, ça a duré
plus de deux
longtemps.
Heures.
Mmh. Ouais, 1h50 je crois, un truc comme ça.
Exactement.
Deux heures sur la vidéo de ce que j'ai vu.
Après, ce qui était pas mal, c'est comme les dernières, on en avait déjà eu comme ça des cérémonies d'ouverture, pas le soir pour la Gamescom et tout, c'était assez rythmé quand même, animé une nouvelle fois par Geoff
Keighley.
Ouais, j'ai du monde à, comme Jean-Claude.
D'accord. Exactement.
Et non, qui est comme Minogue aussi. Et voilà, bim.
Et du coup, il y avait un peu ce sentiment, ce rythme un peu au Game Awards, tu sais, ça s'enchaînait quand même assez rapidement.
World Premiere.
Après, le truc, c'est que, en tout cas, à mon sens, en termes d'annonce et de présentation, on est quand même un peu resté sur notre fin, même s'il y a eu des petits titres en particulier qu'on fait plaisir à certaines personnes. Je pense par exemple à Kerbal Space Program 2, qui est un titre un petit peu de niche, mais qui a vraiment sa communauté. Il y a eu des petites surprises aussi comme Little Nightmares 2.
Ouais.
Et puis évidemment, on a eu la grande séquence dédiée à Death Stranding, donc évidemment le nouveau jeu de Hideo Kojima, hein, si
qui était sur scène d'ailleurs
encore,
à la fin.
Au courant,
donc, qui a été teasé pendant toute la soirée.
Ouais, bah oui, ça je me dis.
Ça faisait surtout.
Alors que tout le monde le savait.
Ça faisait surtout, ne zappez pas. Kojima va arriver, vous allez voir, ça va être génial.
Ne vous endormez pas tout de suite.
Et plus que jamais une rockstar, hein, parce que tout le public, une bonne partie du public s'est levé, venu au niveau de l'estrade, a pris des photos et lui-même il saluait le public.
Je crois que c'est un gros groupe. Hein.
Bah en tout cas, il a une influence certaine, ouais, ça c'est sûr. Il déplace les masses en tout cas.
Son jeu est incompréhensible.
Et puis, il rend le sourire à Geoff Keighley aussi, hein, parce que Geoff Keighley pendant tout le truc était un petit peu. Ouais, tantôt il faisait des petites blagues. Enfin, il avait l'air souriant parce qu'il disait les jeux, je crois que Osef en fait, les jeux dont on est en train de parler,
ah
donc
oui,
on va vite
ça.
Se dépêcher d'aller à Death Stranding.
Vite Death Stranding, c'en est où, vite?
Mais c'est vrai que quand il a vu Kojima arriver, son visage s'est immédiatement illuminé.
Ouais, on sentait que c'était le moment qu'il attendait. Ouais. Mais voilà, en gros.
Donc c'était pas une conf extraordinairement.
Disons que c'était pas. On a eu des conférences très pénibles, ou même encore cette année, l'event Microsoft qui est très long, très focalisé sur des points bien précis. C'est-à-dire que si t'es vraiment pas un fan hardcore du jeu, bah c'est pas forcément très intéressant. Là au moins c'était rythmé, mais c'était un peu chiche en annonce. En tout cas, il m'a semblé à cette année. Peut-être que toi t'avais une impression différente, Thomas, qui était à la colonne.
Non, c'était des annonces qui étaient pas forcément majeures, mais au moins il y a eu des trucs. Moi je pense aussi à Humankind aussi, dont le trailer
absolument.
D'annonce m'a tout de suite accroché. En fait, c'est le nouveau Amplitude dont on reparlera tout à l'heure, puisque ça fait partie des jeux que Camille a véritablement apprécié sur le salon. Il y avait des annonces, c'était assez rythmé, et j'ai eu la même réflexion que toi pendant que j'étais dans le public, en fait, au niveau du renouveau et des séquences qui s'enchaînaient. Je me rappelle d'il y a 10 ans, quand je regardais les conférences de l'E3 depuis chez moi, où à un moment donné tu rentres rentres sur un jeu, tu te dis ah c'est dommage celui-là j'en ai rien à foutre, et tu savais que t'étais parti pour 15-20 minutes de détails sur un truc dont tu te tapais cordialement. Là au moins ça durait allez 5 minutes grand max quand ils faisaient venir les devs sur scène. C'était le cas pour Need for Speed Heat par exemple, voilà, enfin Call of Duty, des trucs qui me passionnaient pas outre mesure, c'était on passait vite globalement à autre chose. Mais c'est vrai qu'il y a quand même eu des longueurs finalement sur la totalité de la conférence.
Mais ça a beaucoup parlé, j'ai l'impression, quand même, sur scène et tout.
Oui, bah, puis il y avait des récompenses qui étaient glissées entre les deux aussi.
Alors, ça c'était très bizarre parce qu'en plus, les récompenses ont été attribuées alors que le salon n'était pas encore ouvert.
À la veille de l'ouverture du salon.
C'est très bizarre, donc on ne sait pas comment ça a été attribué. Mais par contre, en effet, pour une question de rythme aussi, un truc que j'ai trouvé réussi, et on le voit sur les images aussi, c'est qu'à chaque fois, il y avait un intervenant pour un jeu qui venait parler avec Killy. Ce qui fait que du coup, tu n'avais pas les mecs qui se retrouvaient tout seuls avec les poches dans les mains face à la caméra.
Les poches dans les mains, carrément.
Pardon, les mains dans les poches.
Tu sais que c'est le grand-père Snorky qui parlait comme ça, qui inversait les mots, hein, si je me rappelle.
Et donc ça permettait aussi un peu, je trouve, de mettre en avant aussi certains créateurs de certaines licences qui sont pas forcément connues, et ça met un visage aussi avec le jeu vidéo. C'est pas juste des anonymes, quoi. Donc ça, je trouvais ça pas mal.
Et quand ils avaient, pardon,
c'était ce que j'allais dire, pardon, justement, c'est que c'était bien parce que Erika, par exemple, qui a fait son retour, un jeu qui avait été annoncé à la Paris Games Week 2017, qui a fait son retour sur scène là pendant la cérémonie d'ouverture de la Gamescom, c'était bien aussi de voir le directeur créatif du jeu, Jack Attridge, et l'actrice maintenant qui incarne le jeu,
elle a 15 ans en fait.
Holly Hurl, oui, elle est toute jeune, je crois. Et c'était bien de les avoir aussi et de dire dans la foulée, en fait, le jeu est sorti. Bon, après, la qualité du jeu, vous pouvez aller lire
c'est
le test.
C'est une autre histoire.
C'est une autre histoire, malheureusement. Mais oui, c'est vrai qu'au moins, t'avais les visages des personnes qui sont derrière les jeux. Ou Raoul Rubio pour Guilt, qui est une exclusivité Stadia qui a eu une conf. Un direct quelques heures avant qui était pas génial non plus.
Non.
Un peu comme le Xbox Inside était, enfin l'Inside Xbox pardon, était pas génial non plus. Je pense que par rapport à ces événements là, je mets de côté le truc de Nintendo sur les jeux indés qui lui était ultra chargé et vraiment encore une fois très bien. Hein,
et bien plus court aussi.
Oui, et aussi bien plus court, heureusement. Et pareil avec des jeux sortis dans la foulée comme Hotline Miami Collection ou Super Hot. Mais je trouve que l'événement, pour une première, est pas mal. Il y a évidemment pas mal de choses à roder, mais par rapport à ce que la Gamescom a d'habitude, notamment la conf de l'année dernière, qui était assez laborieuse.
Alors ça, c'était le plus horrifique de tous les temps, je pense.
C'est quand même autre chose. Et pour un public européen qui est peut-être pas forcément au fait de tout ce qui se passe à l'E3, des différentes confs et tout, c'est largement suffisant. Je pense que les gens dans la salle ont dû être très contents de voir du Borderlands, du Call of Duty.
Il y avait de l'ambiance sur toutes les annonces dans la salle, ouais.
Donc je pense que pour eux, à mon avis, le bilan est bon.
Je dis de l'ambiance sur toutes les annonces. Non, c'est pas vrai. Il y avait des annonces de certains jeux complètement osef où effectivement tu sentais que personne bougeait dans la foule et que tout le monde se disait ah oui d'accord par exemple le retour de Comanche.
C'est vrai,
il y a eu des moments où il y avait un tout petit peu de flottement quand même au niveau du public. Et après, alors, moi à titre personnel, le regret que j'ai, c'est que on nous a justement teasé à mort pendant tout le long de la conf l'arrivée de Kojima, qu'allait forcément présenter un petit bout de Death Stranding, et finalement ce qu'on en a vu, c'était quand même service minimum. Il a rappelé qu'il gardait un petit peu tout pour le TGS dans deux semaines, et finalement voilà, on nous l'a beaucoup teasé pour finalement voir pas grand chose. Un mec qui pisse dehors, qui fait pousser un champignon, et puis un featuring dont tout le monde se tape a priori cordialement. J'ai trouvé ça un petit peu dommage, ça faisait vraiment à pas pour finalement pas grand chose au final.
C'est souvent ce qui arrive dans la société actuelle, c'est que
ok.
Non mais c'est vrai, hein. C'est un truc que tu constates dans les médias, dans le divertissement, c'est que c'est pas, c'est finalement l'effet d'annonce est plus important que l'annonce aujourd'hui. C'est d'avoir fait monter la sauce, c'est devenu beaucoup plus important.
C'est comme le paraître.
Et malheureusement, c'est ce qui se passe avec ça, mais ça permet d'avoir les projecteurs et les regards des gens peut-être beaucoup plus braqués sur la chose.
Ah c'est sûr.
Et après, bon, il y a une déception, mais.
Oui, mais ils ont quand même montré quelque chose. Ils ont pas.
Oui, bien sûr, évidemment.
Et cette séquence-là, elle n'existait pas avant, on l'avait jamais vue.
C'est toujours appréciable d'avoir cette séquence-là et les deux autres, celle avec Mama et
Guillermo del Toro
et Deadman.
Deadman.
Voilà. Donc,
ils ont quand même montré des grosses séquences. Il n'y a pas eu.
Ouais, mais c'est
c'était
pas
surtout
des
cinématiques. Donc encore une fois, le gameplay ça reste assez mystérieux. Quoi.
Toujours déconnecter les unes des autres, histoire que tu puisses pas t'y repérer.
Comme si on comprenait déjà quelque chose.
Voilà, c'est ça.
Après, c'est un jeu de piste qui peut être amusant aussi.
Il paraît qu'il y a 150 de fin.
Après,
non, il paraît qu'en fait tu joues Raiden. Mais ça,
il paraît que tu joues le bébé en fait. Ouais. C'est ça la ruse. C'est lui qui mène tout le monde à la baguette.
La danse.
Tu paries?
C'est lui le méchant de l'histoire, tu
exactement.
Veux dire?
Exactement. Moi, genre, je parie sur
il regarde de tous les côtés. En
un
fait,
putain de twist à la fin.
Non, on dit ça, mais il y avait une présentation aussi sur le salon, sur le stand Sony. Sony qui était là pour annoncer, pour présenter quelques jeux jouables. Il y avait derrière un rideau une présentation de Death Stranding que vous pouvez d'ailleurs retrouver sur Gameblog.
En
pardon.
Fourbe.
Puisque un YouTuber italien, comme par hasard,
toujours les Italiens, les Espagnols.
Voilà, l'a capturé grâce à son téléphone et du coup. En l'occurrence, on comprend peut-être un tout petit peu plus ce qui va motiver, on va dire, le personnage principal de Sam au début de l'aventure, puisque il est face à Amélie, donc qui est incarnée par
Lindsay Wagner.
Merci. Voilà. Et qui lui explique un petit peu quel est l'enjeu de sa mission, pourquoi est-ce qu'il doit le faire. Voilà, si vous voulez le voir, allez regarder la vidéo, ça dure 6-7 minutes. On a plutôt l'impression que ça va se dérouler au début du jeu, puisque c'est grosso modo les motivations de Sam, quelle va être sa mission, ce qu'il va devoir faire, et pourquoi est-ce qu'il part à l'aventure. Donc
c'est une bonne chose, on comprend ce qui se passe dès le début. Quoi.
Pour le coup, ça resitue un petit peu les enjeux, sachant que pour le gameplay, en l'occurrence, il faudra sans doute attendre le TGS, parce que, mis à part voilà, ce moment avec des gags à la Kojima qui ont fait rire tout le monde, on n'a pas encore eu grand-chose.
C'est vrai.
D'accord. Bon bah voilà, c'est tout ce qu'on pouvait dire sur cette ONL, Opening Night Live.
Mais je suis d'accord avec Plume, pour une première au niveau du format, ça aurait franchement pu être pire.
Vous pensez qu'il va le refaire l'année prochaine et
bah, ça serait malheureux de s'arrêter là. Et puis après, peut-être que l'année prochaine, la nouvelle génération aidant, il y aura beaucoup plus de choses importantes qui pourront être montrées. Et peut-être qu'on arrêtera de s'appuyer sur le fait que Kojima peut être à la fin de la conf pour avoir des choses intéressantes et un rythme un peu plus soutenu.
Bah, pour les éditeurs, ce sera peut-être un moment justement pour se démarquer un tout petit peu. T'as énormément d'annonces à l'E3, au Tokyo Game Show aussi, entre les deux maintenant avec les différents constructeurs qui nous donnent rendez-vous. Ça sera peut-être effectivement le moment où certains en profiteront pour faire des world premieres et annoncer un tout nouveau jeu. Et d'ailleurs, je fais juste une toute petite parenthèse, la Gamescom, c'est peut-être le premier salon où des développeurs, pour le coup indé, commençaient à me parler de portages sur PS5 pour leurs jeux, etc. Sans que voilà, ça prenne des proportions démentielles,
oui,
mais
oui, toujours, hein.
ils commençaient véritablement à en parler en disant voilà, le jeu, on le travaille pour qu'il sorte sur PC, PS4 et Xbox One, et évidemment sur PS5 et Scarlett. Là, ça commençait.
Ouais, t'as des noms là, des développeurs qui ont dit ça ?
On en parlera après.
Oh là là, t'as des 06, tu veux pas balancer les scoops ?
Ouais, parfait.
Il faudra revenir.
Tout à fait, on est ok là-dessus. Si on passait, par exemple, à Switch Lite.
Eh oui !
Parce que là, on a le droit d'en parler.
Comment ça, la Switch
Lite ?
Alors
qu'il est.
Exactement, puisque vous ne vous y attendiez pas, mais nous un tout petit peu quand même, on a pu profiter de la Gamescom pour essayer pour la première fois la Switch Lite, donc la déclinaison purement nomade de
et
la
oui
console de Nintendo. Dans ces trois coloris d'ailleurs, la grise, la jaune et la turquoise. Qui
alors
était
laquelle
là
est la mieux en main?
Moi j'aime bien la jaune, moi.
Laquelle va plus vite?
Oh, écoute, moi j'aime bien la turquoise parce que visuellement c'est un coloris que je trouve sympa. Et on l'a eu en main pendant 40 minutes. On a pu faire non pas tourner les serviettes mais les consoles, en l'occurrence avec quelques confrères de la presse jeux vidéo française. Et on a pu tester 4 jeux. Donc Tetris 99, Mario Maker 2, Link's Awakening et Mario Kart 8. Histoire de voir un petit peu l'affichage,
comment ça tourne et tout ça, ouais.
Et en termes
et cette fois t'as fini la démo de Link's Awakening.
Non, bah non, c'était trop court.
Oh là là, alors que t'as un challenge là qui t'attend. Ah, ça y est, il est vénère là, je le vois.
Non,
je le vois à ta tête.
Non, mais ça me fait penser justement que j'ai quelque chose à dire et qui me permet
d'enchaîner. J'ai quelque chose à dire.
Donc je te remercie.
Bon, bah de rien.
Vous vous posez la question, évidemment, oui, la croix multidirectionnelle, elle change quand même pas mal de choses. C'est un ajout vraiment bienvenu pour le coup.
Ça veut dire qu'on va pouvoir jouer à Céleste dans des bonnes conditions.
Exactement. Ne serait-ce que sur un Mario Maker 2, quand t'as tous ces niveaux en 2D à l'ancienne, ça permet quand même d'avoir beaucoup plus de précision. Le problème, c'est que certains jeux ne l'avaient visiblement pas intégré d'office. Et par exemple, Link's Awakening, tu ne vas pas te déplacer avec la croix sur la world map. En tout cas, dans cette version démo, on ne pouvait pas l'utiliser ailleurs que dans les menus. Donc ça c'est un tout petit peu dommage, en espérant que les futurs développements l'intègrent au fur et à mesure.
Le stick il est assez solide là, justement on voit la vidéo de Link's Awakening.
Alors,
il est assez solide pour un Link qui doit bouger dans tous les sens.
C'est l'un des problèmes que je vais évoquer juste après.
On
va juste faire le tour de l'ergonomie et des nouveautés de la console. En termes de prise en main, moi j'ai trouvé que ça tombait plutôt bien sous les pouces, etc. Le souci c'est que je me suis dit que c'était presque trop petit, même pour mes mains à moi, et comme tu me le rappelais tout à l'heure, je suis pas très grand, hein, donc.
T'as des plus grosses paluches que moi, je crois.
Non, on est à peu près équivalent. Mais du coup, pour les gens normaux qui ont des mains un tout petit peu plus grandes, je me suis dit que ça risquait de poser peut-être un tout petit peu problème. Donc, essayez-la sans doute avant de vous jeter dessus, parce qu'en termes de prise en main, je me demande si c'est pas un tout petit peu trop petit. En revanche, du coup, la console est super légère. Quand tu ressors ta Switch, après, ça a l'air d'être un espèce de mammouth. Comme je le disais dans la vidéo d'impression.
Ça se voit qu'elle est quand même bien plus petite. Hein.
Oui, l'écran a été réduit, même au niveau des matériaux et tout, vu qu'il n'y a pas ce principe de Joy-Con détachable, on a pas mal de matériaux en moins, mine de rien. Et enlevez les Joy-Con en fait de votre Switch, gardez l'écran et dites-vous qu'elle est encore un petit peu plus légère que ça en fait, avec évidemment un poids qui est réparti puisque elle est un petit peu plus grande que l'écran de la seule Switch originale. Alors du coup, ça pour la version nomade, c'est quand même super chouette. C'est vraiment une console que tu vas pouvoir transporter un petit peu partout sans te prendre la tête, etc. Donc de ce point de vue-là, pas de souci. Forcément, la petite languette que vous aviez derrière qui permettait de la poser sur une table a disparu. On a un truc en plastique qui reste avec la console, un petit peu comme le slot pour enfiler les cartouches, qui va vous permettre d'insérer en fait la carte micro SD derrière. Et évidemment, pas de vibration HD non plus, ça on le savait déjà, ça avait été annoncé par Nintendo en même temps que la console.
Mais tu parlais du son qui était...
Par contre, il y a un autre moyen de faire vibrer différemment la console, c'est qu'en fait, si vous mettez le son à fond, ce qui était le cas là pendant cette présentation, puisque on est sur un salon, il y a du bruit, il y a énormément de gens qui gravitent autour, et ben avec le son à fond, souvent la console vibrait en fait. Les haut-parleurs sont tellement balèzes, entre guillemets, pour ce tout petit bout de plastique, que ça faisait vibrer toute la console. Du coup, il y a une sensation un petit peu étrange sonore. De dire que c'était sans doute pas prévu pour ça. Mais voilà, c'est un truc que j'ai pu remarquer en y jouant pendant ces 40 minutes. Mais le point qui pose vraiment problème, comme tu me le disais, mon cher Traz, c'est le stick. Puisqu'en fait, vous savez très bien que les modèles classiques de la Switch ont ce problème qu'on appelle désormais le Joy-Con Drift. Et pendant une partie de Mario Kart,
je l'ai cassé.
Non, mais par deux fois, j'ai senti que le kart déviait complètement sur la gauche, alors que c'était pas l'input que j'étais en train de balancer. C'est arrivé deux fois pendant une course, et du coup, je me suis dit, attends, merde, il y a déjà un problème en fait avec le stick de la console. Alors, c'est une version debug de salon et tout.
Oui, tout le monde l'a touché.
Voilà, c'est exactement ce moment-là que Poufy vient de vous montrer.
Ah oui, c'est la photo. Oui, c'est la photo stick.
Oui, c'est la photo stick.
Tu connais le planté de bouton,
mon cher monsieur.
Non, le planté de bouton.
Aucun souci. Hein. D'ailleurs, si on reviendra en arrière, évidemment, pour les premiums qui vont regarder la vidéo, on verra parfaitement ton skill à un autre niveau de la course. Et là, que tu sois premier sur ce passage-là, vraiment.
Ah mais sur les deux circuits, je te rassure.
Vas-y, lance ta carape.
J'ai éclaté mes chers confrères.
Quelle classe.
Éclaté mes chers.
Évidemment.
De la presse France. Ouais.
Mais tout ça pour vous dire que malgré le fait qu'on imagine que plein de gens l'aient eu en main auparavant, etc.
Ouais. Ça devrait quand même tenir le temps d'une journée. Quoi.
Exactement. Sinon, c'est une console qui est beaucoup plus récente que la moyenne. Et pour autant, j'ai déjà ressenti un petit souci au niveau du stick. Donc moi, ça m'inquiète vachement pour la durée de vie de la console et puis pour sa robustesse dans le temps. Quoi.
Donc, je pense que là on filme que tes mains et rien qu'avec tes mains t'es incroyablement hautain. T'as gagné, tu tournes la paume de ta main genre bah oui c'est comme ça.
C'est comme ça.
Hey, qu'est-ce que tu veux ? Toi-même tu sais. Hein.
À l'américaine mec.
Exactement.
Donc voilà, la console sort le 20 septembre, donc on va de toute façon avoir très largement l'occasion de vous en reparler.
À quel prix déjà ?
À 199,99€.
Très important.
Autant vous dire 200 boules.
200 pifs.
Comme on le dit chez nous.
Et donc 3 coloris.
Et donc trois coloris, gris, aussi. Turquoise et jaune, sachant qu'on a une version Pokémon qui arrivera, elle, le 8 novembre.
À 600€.
Pokémon épée bouclier, évidemment.
Exact. Bon, parfait. Alors, c'est tout ce qu'on avait à dire là-dessus et c'est déjà pas mal. Et vous avez sans doute vu justement le test... Enfin, on vous renvoie sur le test...
Les impressions vidéo,
un peu plus longues de Thomas sur le site que vous pouvez d'ores et déjà donc regarder 50 fois si vous voulez. On passe à un truc encore plus intéressant, ou pas d'ailleurs. À Google Stadia.
Et oui, parce que Camille a pu réessayer le ou la Google Stadia, je ne sais pas comment
Google
dire.
Stadia tout court.
Okay. Ouais. Bah, la Google Stadia, alors, puisque je peux faire ce que je veux.
Exactement.
Et en l'occurrence, ça s'est vachement mieux passé en fait. On en a beaucoup parlé avant, il l'a essayé et on en a reparlé après. Les serveurs étaient beaucoup plus proches que quand j'ai pu l'essayer à Los Angeles. Pour rappel, quand on l'a essayé cet été, il y avait 600 km de distance entre les serveurs qui étaient à San Francisco et la machine à Los Angeles. Là, ils étaient à Francfort, donc à moins de 200 bornes de. J'allais dire Cologne.
De Cologne,
merci. Et du coup, Camille, qui est pourtant un esthète, un joueur PC, etc., m'a dit qu'il n'y avait aucun problème de texture, d'affichage, de chargement sur la démo de Doom Eternal qu'il a pu tester. Il avait aussi pour la première fois pu mettre les mains sur Mortal Kombat 11, donc, qui est aussi un bon maître étalon pour juger de la pertinence de l'affichage de la console et tout. C'est un jeu de baston, ça a besoin d'être très rapide. Et alors, lui, vraiment, a été satisfait de ce qu'il a vu. Donc pour le coup, ça veut dire que si vous aurez a priori un serveur pas loin de chez vous, ça risquerait d'aller quand même un petit peu mieux. On rappelle qu'il faut quand même une bonne vingtaine de megs en termes de connexion pour l'afficher, ne serait-ce qu'en HD, et à peu près 35 je crois pour espérer avoir du 4K. Donc vérifiez aussi vos connexions.
Ouais, et vérifiez que Google va bien, parce que rien que leur direct, des fois il ramait. Donc faudra faire très attention à tout ça malheureusement.
T'imagines s'il y a beaucoup d'achats de Google Stadia, ils vont faire ramer tout Internet en fait avec ce jeu.
Et Internet
avec
va mourir.
Cette machine.
Bah ça va exploser.
Mais non, mais est-ce qu'ils ont prévu des 50 millions de serveurs en plus, parce que imagine que c'est un super gros succès.
Imagine Disney Plus qui va.
Vu
la... Voilà. Il n'y a plus Internet.
Vu la fréquentation du stand, enfin si c'était bien un stand qui avait.
Il y avait un stand public, ouais.
Qui est visiblement été désert une bonne partie du temps. Ça risque pas d'être
le stand Google Stadia, tu veux dire?
Ouais, je confirme.
Ça risque pas d'être la grande folie. Hein.
Et pourtant, on pouvait essayer déjà sur le stand même le truc ou pas du tout? Ou c'était que pour les journalistes?
Non, on pouvait l'essayer sur le stand, ce qu'ils proposaient.
Donc, il y avait personne, quoi.
T'avais un grand panneau dans le couloir principal.
Venez essayer avec des trucs qui clignotent et tout.
Exactement, venez essayer Google Stadia.
Il n'y avait pas grand monde.
Et il n'y avait pas effectivement grand monde sur le stand. Les gens, on va dire, se sont plutôt jetés sur un certain Borderlands 3,
oui,
qui pourtant sortait juste après pour l'essayer.
Ah, ça, j'ai jamais compris ça, ouais. Enfin,
Bah Borderlands c'est cool.
C'est dépassionné, voilà, hein.
Oui, mais il sort dans deux semaines, quoi.
Bah, quand tu sais qu'effectivement il va sortir dans pas longtemps et...
Bah t'as envie de l'égoutter.
C'est comme les jeux dont il y a déjà eu des démos. Les mecs ils font une queue de 2 heures pour jouer au jeu alors que c'est le jeu de la démo, quoi. Là tu fais attends, mais je piche pas, c'est quoi l'intérêt?
Eh ouais, va comprendre.
Mais bon, c'est pas grave, hein, c'est la vie.
La passion.
Bah écoute, Stadia on verra l'usage, hein. De toute façon c'est prévu pendant pas très longtemps non plus, donc
Mais par contre il y a eu pas mal de jeux qui ont été annoncés aussi pendant le Stadia Connect.
Ouais, pas beaucoup de surprises, hein. Il y a quelques exclus, quelques confirmations comme Cyberpunk, voilà, qui sera là aussi en même temps que sur console et PC, ça sera sur Stadia.
Tu parlais tout à l'heure de l'exclu de Tequila Works.
Absolument, Guilt. Et je crois qu'il y en avait une autre, je crois que c'est Torchlight, Torchlight 3, non.
Train 4
Non, c'est pas Torchlight. Il y en a un jeu, un hack and slash, ça y est, je vais pas jamais en rappeler son nom, qui doit être une exclusivité aussi Google Stadia. Après, c'est vrai qu'il y avait Farming Simulator.
Mais il y a Farming Simulator. Et Windjammers 2 aussi.
Et là, mon cœur.
Ton cœur balance, c'est chavir.
Ah ouais, là vraiment. C'est ce jeu-là.
Oui, c'est ça.
Ah,
ouais.
Alors, c'est quoi ça?
Ce jeu-là qui s'appelle. Et je vais le retrouver.
Bah, attendez, on est en train de regarder la vidéo en même temps que vous, donc.
Oui,
on va
voir
ce que c'est.
Pour ceux qui n'ont pas la vidéo, c'est un jeu avec des orques.
Voilà.
Et...
Ah, Ghost Dive 3.
Et voilà. Des personnages qui font des Kamehameha.
Les orques, Samurai Showdown. C'était beaucoup de jeux qu'on sait qui vont sortir sur d'autres machines.
Ça avait déjà, oui.
Mais bah, c'est toujours bien de savoir qu'ils seront aussi chez Stadia, ouais, évidemment, pour ceux qui vont vouloir succomber au charme de l'abonnement.
Et après,
c'est du jeu à la demande.
Pour un jeu comme Cyberpunk 2077, par exemple, où on sait qu'il va falloir un énorme PC, là, ça peut avoir un véritable intérêt.
Moi, je pense qu'une Xbox One X ou une PS4 Pro feront un bon travail aussi.
Oui, mais tout le monde n'a pas ses consoles aussi.
Faut voir le prix aussi au final.
Sauf si effectivement il casse ces prix-là au moment où Stadia sort, ce qui est possible. Genre la PS4 Pro à 200€ et voilà.
Si le système d'abonnement est mensuel, tu vois, tu peux juste te faire le jeu que t'as envie de te faire pendant quelques mois sans avoir à investir 500 balles ou 400 balles dans une console, quoi.
C'est la.
Et plus dans un PC.
C'est l'avantage du truc. Ouais.
Non, mais sinon nous on prête, hein, c'est pas un souci, hein, vous passez. Nous on a une PS4 Pro et une Xbox One X, si vous voulez, hein, vous les passez, c'est vite fait.
Exactement. Plume se fera un plaisir de vous les prêter.
Oh oui, aucun problème. Hein.
Problème.
Ouais, je pense que Johnny les aura déjà embarqués.
Ouais,
en fait,
c'est ça, avec un chèque de caution de 2000€ et hop, c'est bon, tout va bien.
Comme ça, on ira manger tant du Maroc et ça sera pas.
Exactement.
Bon, voilà. Bon, c'est tout ce qu'on peut dire sur Google Stadia. En fait, c'était pas non plus.
Oui, mais voilà, c'était l'occasion d'avoir des impressions un peu plus rassurantes que ce que j'ai pu voir moi à Los Angeles. Du coup, bah, ça fait pencher, on va dire, la balance. Ça la remet peut-être un petit peu au milieu.
Tout à fait.
Parce que si même Camille a trouvé que c'était sympa, c'est qu'a priori, techniquement, ça peut tenir la route pour peu que les serveurs soient pas trop éloignés non plus.
Mais on sent pas un engouement non plus démesuré.
Ouais, je te l'accorde.
Mais il y a peut-être plus de gens qui étaient là pour manifester, pour dire payez vos impôts que qu'autre chose, je sais pas.
T'imagines. Mais je me demande d'ailleurs comment Stadia va fonctionner aussi bien en Europe qu'aux États-Unis, quoi. Bon, dans les autres pays du monde, je pense qu'au Japon, c'est même pas la peine.
De toute façon, ils font un lancement un peu restreint. Je crois qu'il y a une douzaine de pays pour
ils
le lancement
d'abord,
de Stadia.
Voir comment ça se passe, si t'as le terrain, et puis après, on verra comment ça se passe. tout ça. Eh bien, parfait. On va passer maintenant aux jeux qui vous ont le plus plu, vous.
Bah toi aussi.
Moi de très très loin.
Toi qui l'as suivi, tu t'as piscine à bulles.
J'ai sorti la même chose, Death Stranding, Cyberpunk 2077. Voilà, c'est les jeux qu'on connaît parfaitement depuis le 3. Et Link's Awakening,
Cyberpunk
évidemment.
Qui est le jeu du salon de Morgan évidemment.
Link's Awakening, bah oui, Morgan forcément là.
Mais je la soupçonne d'être un peu vendue quand même, je sais pas pourquoi.
Ouais, elle avait une veste et tout du salon,
c'est bizarre.
Oh bah tout le monde l'a eu la veste hein, maintenant.
Allez voir sur son Instagram. Et n'empêche que ça va valoir de l'or bientôt, je suis sûr.
Bah non, quand ils vont la vendre sur leur boutique, ça vaudra 50 euros puis c'est
vrai. 80 euros. Et bien on fait le tour alors du coup maintenant ou pas?
Et bah allez.
Ouais. Est-ce que Thomas, tu veux parler des jeux que Camille a le plus apprécié
Bah allons-y,
sans le détailler parce que.
Oui, sans détail, mais je vais parler un peu en son nom.
De toute façon, on renvoie toujours sur les impressions qu'il y a sur le site, hein, donc n'hésitez pas à aller voir.
Comme ça, on pourra laisser un peu la parole après à nos chers chroniqueurs.
Voilà. Bon, on soupire bien au départ pour bien. voilà, et ensuite c'est bon.
Ça vous donne une idée. Voilà. Non, Camille nous a fait un petit top 3 des jeux qu'il a pu voir ou revoir pendant la Gamescom. En l'occurrence, le premier, c'est un jeu qu'il a pu revoir puisqu'il avait déjà passé une journée entière à caresser dans le sens du poil Planet Zoo, qui est donc un simulateur de zoo, mais qui, à l'inverse des Zoo Tycoon, se préoccupe plus du bien-être animal que du bien-être des visiteurs.
C'est vrai?
Oui, en tout
tu
cas.
Tu peux taguer les éléphants ou pas?
Ah, écoute, ça il m'a pas dit. Mais le jeu se veut assez ambitieux, plutôt porté, comme je le disais, sur ces pauvres bêtes, qui en plus ont un comportement assez réaliste. Alors,
parce que c'est beau, putain.
Le message de Camille, c'était justement que le trailer rendait pas justice, en fait, au travail de modélisation.
Ah ouais, parce que là, déjà, je trouve ça magnifique, moi.
Bah, visiblement, le premier trailer a pas forcément remporté un succès critique phénoménal.
Ah bon? Bah, j'ai pas ce qu'il faut.
Et lui me disait qu'une fois en jeu, c'était.
C'est absolument dingue.
Bien mieux fichu, en fait. En termes de comportement animal, il y a eu beaucoup de travail de la part des développeurs pour essayer d'avoir un rendu naturel et
logique,
crédible
et cohérent, ouais.
Voilà des différentes espèces comme je vous le disais, il va falloir s'occuper d'elles, donc il y aura tout un tas d'accessoires qu'on va pouvoir installer dans les différents parcs. On l'a déjà vu dans le trailer hein, des espèces de brosses pour que tout un tas de mammifères puissent aller se frotter, un ballon de foot pour que l'éléphant s'amuse, bref voilà, il y a beaucoup de choses qu'il va falloir prendre en compte, ainsi que la santé mentale de votre staff aussi, parce qu'il va falloir quand même avoir du personnel en pleine forme pour s'occuper de tous ces animaux, pour les soigner, voilà, ce genre de truc. Et bah, ça lui a particulièrement plu parce que c'est un jeu vraiment très complet et qui offre une vraie alternative à un Zoo Tycoon qui lui est plus porté sur le business et les papettes qu'on peut faire en vendant des billets pour venir voir des animaux.
Tout à fait. Et bah, donc, écoute, ça l'a pas fait moi.
Donc là, pour le coup, il a fait plein d'impressions écrites quand il l'a vu au mois de juin. Donc si vous voulez en savoir un petit peu plus, on vous renvoie évidemment sur son papier.
Bon, par contre, il sort le 5 novembre sur PC.
Exactement.
Et que sur PC, putain, parce que là, il va falloir quand même avoir un sacré matos. Hein,
ouais, puis c'est du jeu de gestion, donc.
Ouais. Ce qui m'embête un petit peu, mais bon, c'est pas grave.
Je pense t'as un PC de la mort, toi.
Je pense que Plume, il va me booster mon PC un jour.
Comment tu veux que je fasse ça?
D'ici 2 ans. Bah, je sais pas, tu pries Jésus, et puis voilà, c'est tout.
Ok.
Et ça suffira. Hein. Donc, le deuxième jeu que Camille a adoré.
Et bah c'est Humankind justement dont vous parlez tout à l'heure, qui fait donc partie des vraies annonces de l'ONL, qui est donc le nouveau jeu d'Amplitude et qui est un jeu de gestion que Camille a largement comparé à Civilization 6 pour le coup.
Quel menteur.
Ah bah écoute, ça je ne sais pas hein, c'est je ne fais que relayer sa parole comparative, et qui lui a beaucoup plu parce que, comme le laissait suggérer ce trailer avec une référence plumesque a priori.
Oh ouais, putain, la référence je peux te dire que ça m'a fait plaisir quand j'ai compris le truc.
En fait,
ce qui se passe, c'est qu'ils ont donc tu vois un homme de Cro-Magnon qui est en train de mixer une musique classique dans sa capsule spatiale.
C'est David Guetta.
Et en fait la musique, c'est la toccata.
Ah, j'ai dit David Guetta, j'étais pas loin.
Ouais, c'est vrai que c'est pas loin. David Toccata, la Toccata de Jean-Sébastien Bach, qui était la musique du générique de Il était une fois l'homme.
Oui.
Et le générique le plus dépressif de tous les temps.
Ah non, oui. J'adorais, t'es fou.
Ouais, non, mais il termine.
Mais j'entendais cette musique, je courais.
Il termine chelou.
Tu courais pour voir quoi? Tu te rappelles la fin de ce générique? Tu sais, c'est les personnages, de toute façon, Il était une fois la vie, ils ont tous le même look.
Ouais,
et t'as genre
et
le
méchants,
qui est Pierrot, qui est un astronaute qui court dans une forêt, dans une fusée, pardon, parce qu'il est poursuivi par une foule haineuse.
Ouais.
La fusée s'envole et la planète Terre explose.
Ah oui, bah oui, mais c'est normal.
Ok,
bah, ça va arriver.
Bon, bah,
moi, je trouvais ça logique
alors,
en fait quand j'ai regardé ça. Je trouvais ça super logique.
Il était content, il avait un grand sourire.
Pour dire que j'avais cru saisir une ref, et après ils ont confirmé sur Twitter effectivement qu'ils avaient garder ça dans un coin de leur tête pour faire ce trailer. Et je trouve que c'est une bonne référence. Et bien, on incarne un leader d'une civilisation qui va traverser les âges pour essayer de que sa culture s'étende du mieux possible. Donc c'est une belle ref et c'est tout à fait le genre de façon pour présenter un jeu comme ça qui, comme Camille le dit si bien, et quand tu vois les premières images, ça saute évidemment aux yeux. C'est un concurrent de Civilization, et Civilization est un peu tout seul dans son créneau et il maîtrise très bien la chose, mais c'est vrai qu'un peu de concurrence ça fait pas de mal, et surtout quand tu vois que le jeu a l'air magnifique. Donc je sens qu'on va perdre des heures et des heures dessus, d'autant qu'Amplitude c'est pas des manchots, ils ont un bagage qui est assez important avec tous les Endless, et ils sont capables de faire des trucs assez costauds avec ces gars derrière pour les pousser. Ça peut être vraiment vraiment bien. Par contre, ça sort pas tout de suite, ce sera 2020 ou 2021.
Et alors il y a un petit twist aussi quand même dans Humankind. D'accord. Parce que c'est un petit peu ce qui fait sa spécificité face à un Civ 6 justement. C'est que plutôt que d'amener une même civilisation de l'âge néolithique au temps moderne, à chaque fin de période, en fait, on va pouvoir la transformer et conserver une partie de l'héritage culturel de la civilisation en question pour la mêler à la nouvelle. Donc,
tu veux dire qu'il y a un grand remplacement par, par fin de...
Non, il y a un mélange, justement.
Il y a un mix.
Il y a un mix. L'ancienne civilisation se fond.
Égypto, Zoulou...
Mais oui, qu'est-ce qui se serait passé si tout avait été complètement différent?
C'est ça l'idée du trailer, justement.
Peut-être que Trump serait en Afrique.
C'est de voir un Néandertal qui mixe dans une capsule spatiale. Là, en l'occurrence, vous allez pouvoir garder des Romains et les avoir aux côtés de soldats moyenâgeux occidentaux, par exemple. On peut mixer plein de trucs, et justement, le jeu te pousse à le faire, parce que tu peux conserver une civilisation du début à la fin, mais tu vas perdre tous les avantages justement de la mixer au fur et à mesure des différentes périodes. Donc le jeu te pousse à mélanger des influences culturelles historiques. Et du coup tu pourras te retrouver dans ta ville moyenâgeuse avec peut-être des pyramides pas loin et des thermes romains, ce genre de trucs.
C'est la World Nation, tu connais pas.
C'est un peu ça la spécificité du Humankind.
Très bien,
ça a l'air génial.
Voilà pour Humankind, donc qui sort, ça je sais plus, ah oui, 2020.
C'était 2020 dans le trailer, mais après avoir parlé avec eux, Camille disait ouais, je sens peut-être un 2021, donc on verra si notre Paco Rabanne Teuton avait raison.
Il a peur de le tester trop tôt. En 3 pour Camille, donc son troisième jeu le plus préféré. Attends, j'allais dire Star Renegades, non, c'est Mountain Blade Bannerlord.
Ouais, c'est son jeu préféré de la Gamescom depuis 10 ans.
C'est vrai?
Ah oui.
C'est un jeu qui est en développement depuis 6 ans.
Je me souviens plus du tout.
Par un studio turc.
Exactement.
Turco-hongrois, non?
Et. Pardon, je te vole la.
Parce je te vole la vedette.
Voilà.
Non, vas-y.
Oui, parce que je peux en parler un petit peu de Mountain Blade, parce que du coup, à chaque fois, à chaque Gamescom, à chaque E3, Camille trouve le moyen de le revoir. Et c'est un jeu qui suit depuis longtemps, parce que c'est un jeu de bataille médiévale, évidemment.
Mais
aussi avec énormément de simulations, de micro-gestion, on va devoir marier par exemple ses princes et ses princesses, voilà, il y a tout un jeu comme ça d'alliance entre les personnages, pas seulement des phases de combat,
d'attaque et de combat
qui se veulent évidemment très réalistes, en tout cas très fidèles à ce qui pouvait être fait à l'époque. Je sais que Camille a essayé de nouvelles factions, il avait déjà essayé plutôt les chevaliers médiévaux lors de ses dernières parties, et là il a pu s'essayer un peu avec les bédouins,
ce qui lui a valu un surnom pendant le reste du salon. Évidemment, bah, Camille le bédouin. Sachez-le.
Le Bédouin.
Et du coup, voilà, donc il y aura différents types de civilisations, différents types de factions.
Mais toujours en Moyen-Âge, du coup.
Oui, toujours dans une époque médiévale.
Ça évolue pas, ça reste même.
Même tu crois pas si bien là, parce que c'est le reproche que fait Camille justement au jeu, c'est qu'à l'époque, le premier Mountain Blade, à l'époque de sa sortie, était visuellement très impressionnant, dans les animations également. Mais comme ce deuxième épisode est quand même en développement depuis 6 ans, s'il y a 6 ans il pouvait être impressionnant, maintenant il commence un petit peu à
dater quoi.
Ouais, à accuser son âge.
Voilà, très frais en tout cas techniquement, mais au-delà de ça, on a quand même voilà, des batailles. Ah bon, c'est impressionnante, et puis surtout tout ce principe de gestion et de réalisme aussi qui plaît aux amateurs de Mountain Blade quoi.
Parfait, très très bien. Bah écoute, on suivra ça avec plaisir. Mais du coup, on n'a pas de date de sortie pour ce jeu, j'imagine. On retrouvera à Gamescom l'année prochaine.
Ouais, c'est ça.
Bah oui, c'est vrai. Ouais.
Rendez-vous l'année prochaine pour un autre plateau d'impression. Ouais,
ça commence
2.
À faire quand même. Ouais.
Plume, toi, c'est quoi tes jeux? On viendra à Thomas après pour les siens.
Ah bon?
Okay. Bah non, ou alors.
Moi je me disais que non, comme il y était, lui c'était plus.
C'est mieux. Non, mais t'as c'est un gros vas-y. Morceau, oui, on peut faire ouais. L'interlude peut-être.
Ok, ouais, on va faire l'interlude.
On finira sur Thomas, je pense. C'est bien. Hein. Vas-y, toi Tiger, qu'est-ce que t'as retenu le plus de Todd Gamescom?
Alors, pour être très franc,
en trailer,
j'ai pas retenu énormément de choses.
À part
parce que j'ai trouvé qu'il y avait quand même pas mal de redites, pas mal de jeux qu'on avait déjà vus. Il y a évidemment des titres qui m'intéressent, comme Windjammers 2, comme Street of Rage 4, comme Death Stranding, évidemment. Enfin, et puis même quelques jeux aussi dont parlera Thomas qu'on a pu découvrir, surtout des productions indées, en fait, des petites productions qui ont été intéressantes. Mais moi, surtout, j'ai eu un vrai coup de cœur pour un trailer de Shenmue 3, c'est et vraiment ça m'a fait du bien.
C'est marrant parce que Julio a eu la même réaction.
Ah ouais,
il, sur Twitter il disait enfin enfin de, un vrai truc quoi, entre guillemets.
Exactement.
Ça nous met dedans.
J'avais déjà été rassuré un petit peu par Romain à son retour de l'E3 après qu'il ait joué à une démo avec Yu Suzuki où ils avaient expliqué que il y avait ce ressenti Shenmue. Et je crois que pour ceux qui sont amoureux du jeu comme moi, comme Romain, comme Julo évidemment,
Julold.
Le plus important c'est pas forcément la technique, c'est pas forcément les animations, c'est plutôt le sentiment qu'on peut ressentir, qu'on avait à l'époque sur Dreamcast, à l'époque d'un jeu triple A très ambitieux mais dans lequel il y avait vraiment une lenteur, dans lequel on prenait son temps, dans lequel on était dans un quotidien, donc avec des choses très simples,
une atmosphère et
tout. Ce trailer qui s'appelle Une journée dans la vie de Ryo, donc le héros, on retrouve vraiment cet esprit là on retrouve aussi qui était aussi envoûtant dans Shenmue à l'époque, c'était l'Asie quoi. Là dans ce trailer on ressent aussi vraiment les décors chinois, les petits jeux chinois qu'on a. Il y a tout un focus aussi, comme on le voit, qui est fait sur les arts martiaux. Ça, c'est quelque chose qu'on est content de retrouver aussi, parce que dans Shenmue 2, il y avait des combats de rue qui occupaient énormément de temps. Et ce qui était très intéressant, vu que Yu Suzuki est fan d'arts martiaux, on avait toujours des combattants avec un style d'art martial particulier, ultra réaliste, comme dans Virtua Fighter. Donc ça, visiblement, ça va revenir aussi. Et du coup, je crois que c'est vraiment le premier trailer de Shenmue où je suis vraiment enthousiaste et je me dis ah ça y est ça va être cool. Parce que jusque là je me disais bon voilà Shenmue 3 sera ce qu'il sera, c'est pas grave, on l'a attendu tant d'années, je suis sûr que je vais y trouver quelque chose quand même qui va me faire un peu vibrer. Et là pour le coup vraiment à la fin du trailer j'étais genre waouh mais enfin c'est cool, c'est Shenmue.
Il colle vraiment au
premier coup. Exactement, on sent l'esprit et puis je sais pas ce que vous en pensez mais je trouve que même visuellement
il s'est bien amélioré effectivement.
Mais carrément
c'est là je trouverais d'en plus beau que ce qu'on a pu voir avant quoi. Enfin moi je trouve ça beaucoup plus propre.
Mais ils ont bien peaufiné, bien léché comme on dit.
J'étais vraiment surpris par cet aspect là et puis voilà encore une fois il y a un truc organique je trouve un peu dans les villes qu'on a vues, ces villes chinoises, donc voilà, bon feeling pour ce dernier trailer, enfin et qui il y en aura peut-être d'autres hein. Le jeu sort au mois de novembre,
le 19 ouais,
mais en tout cas si c'est ça c'est rassurant, on se dit que peut-être finalement on est sur la bonne voie et qu'il va en sortir quelque chose de bien de ce Shenmue 3.
Bien c'est une bonne chose en tout cas qu'ils aient sorti ce nouveau trailer. C'était pendant la Gamescom qu'ils ont sorti le trailer ou avant, je me souviens plus.
Il est sorti pendant la Gamescom, c'est le trailer de la Gamescom.
Ils avaient annoncé une première date de sortie à la Gamescom 2018, je crois que c'était le 26 août à la base, et finalement là le jeu va sortir le 19 novembre.
Et d'ailleurs parce que Yu Suzuki était présent à la Gamescom, ils avaient d'ailleurs plutôt un stand un peu plus comment dire
étoffé.
Oui c'est ça, parce que l'année dernière c'était un peu triste de voir cette petite chaise ce petit bureau et Yu Suzuki tout seul, mais là c'était un peu plus étoffé, il y a beaucoup de fans qui sont venus faire dédicacer, il y a un cosplayer qui a fait un cosplayer de Ryo excellent vraiment le même, et surtout il y a eu un clin d'œil vraiment très sympa de la part de CD Projekt Red en fait. Il y a une, alors je sais pas qui c'est, si c'est une attachée de presse ou quoi, mais il y a quelqu'un de CD Projekt Red qui s'est rendu sur le stand, qui a pris une photo avec Yu Suzuki qui a été postée sur le compte de Cyberpunk 2077, et ils ont remercié Yu Suzuki en gros d'avoir ouvert la voie au monde ouvert moderne quoi, et j'ai trouvé ça très chouette de la part d'un titre qui n'a pas besoin de se mettre à côté d'idoles du jeu vidéo pour briller, et de rendre hommage à Yu Suzuki qui parfois peut-être on oublie la carrière extraordinaire et tout ce qu'il a apporté au jeu vidéo, et c'est très chouette de qu'on prenne conscience qu'un jeu comme Cyberpunk, comme l'ont pu l'être les GTA, les Yakuza, les Red Dead, les Bully,
bien sûr.
tous les jeux open world finalement narratifs avec une volonté de réalisme sont les héritiers d'une certaine manière de Shenmue, qui a quand même écrit les règles de du monde ouvert moderne
tout à fait.
C'est vrai que c'est bien un peu de positivité par rapport à ce monsieur.
Exactement.
Quand on n'est pas, quand on voit pas des messages en train de le traiter de voleur ou autre, ouais. Ça fait quand même
chaud au cœur.
Ah oui, bon, tu sais, ils s'en prend plein la... depuis le Kickstarter, de toute façon, ils s'en prend plein la gueule pour pas un rond.
Et puis le jeu qui est devenu sur PC une exclusivité Epic Game Store. Enfin,
en plus,
bon,
ouais.
Bref.
Bon, voilà. Bah, très très bien. Donc Shenmue 3 enfin sur le bon rail et on est content, on a hâte de voir.
Et
ce que
impatient
ça va
pour de vrai, ouais. Ouais.
Pour de vrai.
Et ça c'est cool. On se force plus.
Exactement. Plume, toi, qu'est-ce que t'as retenu à part que tu fais Tiep?
Bah, t'es fatigué. Link's Awakening. Voilà, je suis désolé, moi c'est un,
bah non, pourquoi
c'est
désolé,
un remake,
c'est, la vie, hein.
C'est pas un jeu original, mais chaque fois que je le vois, je repense à moi dans les années 90.
Je repense à moi en arrière.
Bah oui, moi quand je découvrais Link's Awakening, qui est un jeu pour moi fabuleux, qui est le meilleur Zelda de tous les Zelda.
Moi aussi, j'arrête pas de le dire que c'est le meilleur Zelda.
Mais je l'ai dit avant, je crois.
Vous voulez pas vous marier tous les deux?
Comme la, comme la blague avec Jiffy, c'est mais
vous faites jolis enfants.
De quoi?
Mariez-vous?
Bon, ouais, on pourrait.
Faites des gosses.
Ouais, si tu veux.
Y a des gosses.
Ça te fait plaisir. Mais...
Attends, dire Geoff Keighley et Kojima.
T'imagines.
Non, mais quand je vois la bouille.
Qui
la bouille de Link.
La bouille de Linkienne.
Le design qui, pour lequel ils ont.
Mais qu'est-ce que c'est beau, on dirait de la pâte à modeler, c'est trop beau.
Mais moi, ça me fait. Alors, j'arrêterai pas de le dire, ça me fait penser à l'île aux enfants. Pas l'île aux enfants, au manège enchanté.
Oui, oui.
Le design du manège enchanté.
Il y a une pâte là-dessus.
Et ça marche.
Bah, c'est pâte à modeler.
Immédiatement. Non, c'était pas du pâte à modeler.
Simili.
Non, c'était des trucs faits un peu à l'arrache, mais je trouve ça magnifique.
Papier crépon.
Ouais. Je trouve ça absolument magnifique, vraiment.
Respect Pollux,
et
un peu.
Comme c'est un jeu qui est génial, et ils ont l'air d'avoir fait 2-3 petits trucs en plus pour l'aménager, notamment un donjon qu'on peut mixer soi-même, où on crée en fait des blocs de donjons pour
rigolo,
se faire son petit donjon à soi.
Regarde l'eau, comment elle est belle.
Et ouais, enfin, je sais pas. C'est juste parce que c'est magnifique et que le 20 septembre, bah en fait, je serai en vacances. Voilà. Tout simplement.
Ça, c'était une journée de récup le 20 septembre.
J'en aurais 12 même.
C'est vrai.
Ouais, exactement. Donc, non, j'ai vraiment, mais plus que hâte de mettre la main dessus et de le redécouvrir. J'ai presque envie d'effacer ma mémoire, d'effacer ce que je sais de la version GB d'origine pour vraiment le redécouvrir pleinement parce que c'est une merveille. Voilà.
Moi, j'ai envie de t'effacer de ma mémoire.
C'est vrai.
Ouais.
Bah, je vais t'effacer autre chose, moi.
J'ai juste une toute petite réserve sur le plan technique parce que pour y avoir rejoué sur Switch
Lite. Mais c'est pas
t'as
possible.
T'as cassé le stick,
c'est ça. Toute petite. Non, c'est que par moment, on sent que le jeu a du mal à tout afficher et ramouille.
Ça, c'est possible.
Mais qu'est-ce qu'on s'en tape.
Ce qui ne lui enlève pas son charme indéniable.
Mais on s'en tape.
Tu veux bien me laisser finir ma phrase, bordel de
merde. Tu me rappelles Pascal Pro. Voilà, je te le dis. Parce que je cherche la polémique. Et ben voilà, tout ce que t'auras, c'est mon doigt.
Ok.
Mon doigt.
On dira pas où, mais. C'est la seule. Toute petite réserve qu'on pourrait avoir, sinon évidemment il est splendide. On va pas dire le contraire.
Quand t'as Bill Gates.
Ça, c'est certain.
Ouais. T'as Bill Gates qui joue à la console. Bon bah très
je
bien.
Je dois en dire d'autres.
C'est ça. Va... Ah bah comme tu veux, hein, je sais pas
bah
ce que
ouais, j'aurais bien, alors j'aurais bien voulu voir Paper Beast, mais ça c'est Thomas qui s'en est chargé.
Ouais,
et je pense qu'il va nous en parler après.
Papier, ouais.
J'aurais bien voulu voir aussi de mes propres yeux Beyond the Steel Sky,
non,
qui est la suite de Beneath the Steel Sky, qui est un point and click légendaire.
J'ai regardé la vidéo, effectivement ça a juste plus rien à voir avec le premier, quoi.
Bah oui, mais comme vous allez pouvoir l'apprendre, puisqu'il y aura une interview de Charles Sissol qui va arriver sur Gameblog.
Ah, tu dis Charles Sissol, toi?
Oui. Ouais. Bah, c'est un Britannique, non?
Je sais pas, j'ai jamais dit Charles Sissol, moi.
Ouais, puis nous, on est français, quoi.
Bah, je sais pas, c'est votre problème. Qu'est-ce que vous
voulez
que ça...
Charles Sissol?
Qu'est-ce que vous voulez que ça me foute?
Ok, bah écoute, vas-y, hein.
Laissez-moi mes origines écossaises.
Après, c'est vrai que Charles Sissol, ça fait un peu prénom composé ou
bah,
tu sais pas trop. Genre Jean-Françoise. Ouais, comment?
Non, mais si vous avez des doutes, vous me demandez.
Non,
mais
y a pas de soucis, vas-y.
Mais du coup.
Ah, go on!
Comme on a pu discuter un petit peu avec le bonhomme, il nous a dit.
Il est très cool, ce mec, d'ailleurs.
Il est super drôle. J'ai adoré le moment que j'ai passé avec lui.
Ah, puis il est beau aussi. Hein.
Et il adore.
Il sent bon, non?
Il adore
l'andouillette.
Ah, on a parlé de bouffe, justement.
Bah, oui. Non, mais c'est pas une vanne. Je me rappelle d'un tweet qu'il avait posté avec la photo et il expliquait à quel point il adorait l'andouillette.
L'andouillette voilà. Vegan.
Ah, on a parlé de bacon, de son rapport à la bouffe en France.
Oui, il adore la bouffe.
En
oui, parce que je crois qu'il vient en France que pour
c'est
manger.
Un épicurien.
C'est un épicurien, c'est vrai. Mais du coup, il me racontait qu'il en avait un petit peu ras la casquette des jeux d'aventure classiques, que ça commençait à le fatiguer un petit peu.
Bah, d'où ce qu'il a fait là.
Et que justement, ils ont profité de Beneath Steel Sky pour reprendre une vieille licence. Ça fait 25 ans que le premier opus était sorti. Justement prendre peut-être moins de risques qu'avec un Broken Sword qui allait peut-être plus chiffonner les fans s'ils tentaient véritablement quelque chose de tout à fait nouveau. Et là l'idée c'est justement de quitter un peu les codes du jeu d'aventure classique
Et tu lui avais posé la question que je t'avais demandé de lui poser avant de partir.
Ah, le lourd. Non, on a surtout parlé du jeu en fait.
Oh là là, le lourd. Putain, parce que je voulais savoir s'il pensait faire la même chose avec Lord of the Temptress.
Mais alors, justement, il reste quelque chose de Lord of the Temptress dans Beneath a Steel Sky.
Ah.
Parce qu'ils ont repris en fait le système du Virtual Theater,
mm-hmm.
qui faisait que bah, les gens vivent un peu leur vie.
Oui, c'est vrai.
Que tu les regardes ou pas, ils ont comme dans Majora's Mask, j'ai envie de dire, un planning, ils font des choses, et là ça va être à nouveau le cas, et du coup ça va t'obliger à observer véritablement ce qui se passe et à trouver des solutions en fait logiques en observant véritablement ton environnement, sachant que ça sera beaucoup plus simple d'avoir un point de vue global sur un univers en 3D que ça ne l'était sur des écrans fixes d'un jeu d'aventure classique.
Mais voilà. C'est pas une mauvaise chose. Moi j'avais vraiment pas aimé Beneath a Steel Sky à l'époque parce que je m'étais fait chier, mais du début à la fin.
Bah non, parce que t'es cinglé, c'est
tout. J'ai trouvé ça très très très. Je sais pas comment expliquer, il se passait rien quoi, vraiment. Je m'étais vraiment pas.
C'est,
amusé.
Dans, c'est dans ta tête qu'il se passait
c'était
rien.
C'était pas compliqué, c'était.
Dans tes yeux, au fond de ton âme, il se passe plus rien.
Il a fait des vachement de bons trucs.
Ah bah, surtout de sang-froid.
Que j'ai vraiment adoré. Non, pas ça. Ça, j'ai détesté aussi. Mais par contre, non, le Beneath a Steel Sky, j'ai vraiment pas aimé, moi, je sais pas pourquoi. Je sais pas quoi vous dire, c'était chiant. Donc j'espère qu'effectivement avec cette nouvelle mouture, cette nouvelle façon de relancer la licence quelque part.
Mais ils essaient, ils ont l'air de.
Mais c'est très bien qu'il ait fait
pour
ça.
Pour une nouvelle approche justement un peu différente.
Je suis persuadé qu'il s'est peut-être dit aussi qu'à l'époque c'était peut-être pas la bonne approche et du coup.
Bah si, le jeu est vénéré, Beneath a Steel Sky. Qu'est-ce que tu racontes?
Pas par moi. Hein.
Oui, mais pas par toi. Mais toi t'es pas le monde entier.
Parce que les baphomètes, regarde ce qu'il a fait.
Tu n'es pas le centre du monde.
Le seul baphomètre que j'ai pas fait, c'est celui qui était en 3D, tout bizarre, tout pourri que j'ai.
Bah, le 3.
C'était le 3, je crois.
Ouais, c'est le 3. Ouais.
J'ai pas fait
la première interview avec lui, c'était.
J'ai commencé, mais il m'a saoulé.
Pour le 3. Ouais.
Moi, je préfère qu'il reste dans le côté aventure classique, 2D, machin.
Alors après, 2D, c'est 3D. C'est pas pour faire le faillot, mais en l'occurrence, Sisol lui-même disait qu'il y avait des trucs quand même qui marchaient pas dans Beneath a Steel Sky.
Bah oui.
Et que.
Bah
voilà, merci. Voilà.
Merci beaucoup.
Il allait profiter. Bah oui, excuse-moi.
Voilà. Tu vois, patron. Oh, merci.
Voilà, ça, forcément, c'est sûr que ça allait tomber.
Tu vois,
on peut rien dire ici.
Bah non, bon, tu attends.
Bon, en tout cas, c'est pareil. Moi, j'ai hâte de jouer à celui-là parce que voilà, j'espère qu'il s'est rattrapé depuis le temps. Et comme il n'y a pas de nouveau baphomètre pour l'instant, j'avais adoré le tout dernier, donc je vais me relancer là-dessus.
Parfait. Après, il y a un jeu dont j'aurais bien voulu parler, mais je crois qu'il n'était pas là. C'est le jeu de karting avec Garfield.
Ah, ça, il fallait qu'il la poste.
Pas bah chez oui, faut que j'en parle. C'est pour un copain. Hein. Je vous expliquerai.
Il y avait des bons jeux chez Microids, Black Sad, le remake de 13, mais il n'y avait pas Garfield.
Ah oui, alors le remake de 13, tiens, tu peux m'en parler vite fait parce que j'ai souvenir que j'ai adoré ce jeu quand il est sorti, que j'ai fait le test dans le joypad et que je lui ai mis 8 sur 10.
C'est vrai.
Mais en fait, je m'en rappelle pas. Je me rappelle même pas que je l'ai aimé en fait.
Je sais qu'il y a une bonne mémoire, je suis étonné.
Non, mais en lui montrant l'article, il voulait pas se rappeler que c'était lui qui l'avait écrit. Tu vois. Mais c'est moi qui ai mis ça.
Non,
j'ai mis
c'est
moi.
Note. Quelqu'un a dû changer le nom. Pour
mais non, mais je me souviens pas l'avoir aimé à ce point en fait. Et c'est. Après, c'est possible, hein.
Bah, c'était original quand c'est sorti en tout cas.
Non, mais il était bien. Mais je me souvenais pas que c'était à ce point que je l'avais.
Bah, puis il avait des noms qui s'inspirent et fantastiques aussi.
Je sais pas, t'avais peut-être reçu des backchiches à l'époque.
Ah, mais c'est ça. Les 19 en tout cas, avant qu'après
les 19 premiers.
Peu... Enfin, ah, ouais. C'est très précis, tu connais bien.
Là. Bah, en tout cas, ceux devant Sévent Ham.
Ah, bah, ouais.
Après, c'est exact. Une autre histoire.
J'en ai jamais lu aucun moi, de 13.
Ah, c'est très cool, 13. Ça se dévore.
Pas,
alors, justement, on en parle 30 petites secondes parce qu'il y a potentiellement autre chose, non, mais qui va arriver. C'est un remake un peu à la crash, c'est-à-dire qu'ils ont repris le jeu d'origine, mais pas les assets. Ils l'ont complètement reconstruit en conservant le placement des ennemis, etc. Mais en modernisant quelques petites mécaniques, notamment la visée, par exemple, qui a vachement changé depuis 2003 quand 13 est sorti. Donc, ils reprennent la mécanique de Call of Duty que tous les FPS reprennent aujourd'hui, avec ce focus justement quand tu vises avec L, qui te permet d'ajuster un petit peu ton tir. Ils ont revu graphiquement, ils ont rajouté quelques tout petits filtres par moment. Ils ont essayé de rendre le truc un peu plus crédible sur les flammes, sur les dégâts que l'environnement allait pouvoir occasionner, mais ils ont essayé de pas trop toucher aux matériaux d'origine non plus.
De juste rebooster un petit peu, quoi.
Voilà, de conserver les musiques. Alors, le doublage, on sait pas encore. Je crois qu'ils sont en train d'essayer de récupérer les voix d'époque, mais c'était pas encore tout à fait dealé quand j'ai vu tourner le jeu. Mais, je crois que c'était le producteur qui me disait qu'ils avaient été très agréablement surpris suite à l'annonce du remake que les fans l'aient reçu comme ça avec pas mal d'enthousiasme finalement, et du coup vu que ça se base sur les 5 premiers volumes, ils se disent que si ça marche, l'idée c'est de dérouler justement la suite des aventures de 13 sur un hypothétique deuxième et
14,
3e
15, 16,
épisode, etc.
Bon bah parfait,
donc voilà, peut-être que si le jeu fonctionne très bien, il y aura du coup un 13-2.
Exactement.
Qui racontera la suite.
Alors, justement
avec Lightning ou avec un autre personnage, tu
penses? Non, parce que dans 13-2 c'est pas Lightning, c'est sa sœur.
Ah
bah ouais, quand on n'a pas joué généralement.
Non, j'ai pas joué.
Voilà.
Non.
Le lourd.
Parce que Lightning, elle revient dans le 3, tu sais, Lightning
ah,
Returns.
Oui. Oh voilà. Putain, mais c'est génial.
Putain, ouais. C'est bien trouvé en fait, c'est vachement ah. bien foutu.
C'est ouf.
Bon bah, c'est parfait, on n'a pas encore fini, hein, parce que Thomas doit encore nous parler de tous les jeux qui l'ont impressionné.
Il devait être
pas
court
du tout,
ce podcast, hein, c'est ça.
Mais il est court en fait, il n'est pas si long que ça, hein, okay. T'inquiète pas. Alors toi du coup Thomas, qu'est-ce que t'as retenu? J'ai vu que t'as fait une petite sélection tranquillos.
Oui, j'ai essayé de restreindre, je
donc
vous le jure.
Le fameux Scourgebringer.
Exactement, le jeu des courges.
La porte des courges, je sais pas.
Exactement, qu'on a pas pu vous montrer pour l'instant puisque souci technique oblige, pour l'instant on n'a pas eu le plateau. Mais c'est un jeu que j'ai pu aller voir chez Dear Villagers, qui mélange pas mal de choses, qui s'inspire, on va dire, de Dead Cells, Celeste, mais aussi de Rogue Legacy.
C'est classe.
Oh, ça se voit pas du tout pour Celeste.
Ouais, non.
Pour proposer un jeu d'action très très nerveux avec des éléments de roguelite, où en fait vous avez ce petit personnage avec une longue chevelure blanche, qui en fait va traverser des niveaux dont les salles ont été dessinées à la main, mais qui vont s'agencer de manière aléatoire et renouveler à chaque run. Donc comme c'est un roguelite, évidemment vous allez crever encore et encore. J'ai joué une demi-heure au jeu, je sais même pas combien de fois je suis mort pendant cette session. Mais vous allez récupérer au fur et à mesure des cristaux qui vont vous permettre d'acheter des compétences. Le but, c'est dans chaque zone en fait de trouver un mid-boss qui va vous ouvrir la voie du boss et qui va vous permettre de passer au niveau d'après. Il y aura, je crois, 6 niveaux de tête différents, sauf que il faut se faire aux mécaniques, il faut repérer les patterns des ennemis. Et d'emblée, ce que j'ai bien aimé, c'est que le jeu en fait vous offre une palette de mouvements hyper large. Il y a vraiment beaucoup de choses qu'on peut faire d'entrée de jeu. C'est pas un titre qui va dérouler ses mécaniques de manière un peu ronflante au fur et à mesure. Dès le départ, vous avez beaucoup de mouvements à votre disposition, une attaque courte assez rapide, une attaque chargée, un strafe qui ne permet pas d'éviter les tirs ennemis, un petit module qui va vous permettre de tirer justement à distance sur tout un tas de monstres. Il y a beaucoup beaucoup de choses, on peut courir sur les murs, on peut faire du wall jump, on peut rebondir, enfin il y a beaucoup de liberté. Et l'idée, c'est que une fois qu'on l'a bien en main, en tout cas c'est ce qu'espèrent les développeurs, c'est qu'en rentrant dans une salle, on voit le placement des ennemis et grosso modo en une demi-seconde on se dit ok, tac, ma trajectoire ça va être celle-ci, voilà ce qu'il faut que je fasse. Et l'idée, c'est de pas se faire toucher et de même pas toucher le sol en fait dans certaines salles. Donc voilà, un jeu qui va développer du skill mais qui propose quand même des nouvelles mécaniques qui vont arriver avec justement ces joyaux qu'on peut trouver. Des vendeurs avec des items aléatoires aussi, des items à la con. Il y a notamment une courgette qui ne sert à rien, mais qu'on peut acheter dans la boutique quand on la trouve. D'où le titre. Apparemment, c'est un running gag avec la commu sur Discord. Donc voilà, il y a des easter eggs et des choses comme ça. Et surtout, visuellement, alors c'est du 2D, c'est pixel art, c'est assez nerveux. Mais il y a cette approche de shoot them up, parce que les ennemis, à un moment donné, vont commencer à vous tirer dessus. Il va se passer beaucoup, beaucoup de choses à l'écran. Et le jeu réussit à rester toujours hyper lisible. On a une action qui se détache véritablement du fond, et du coup quand on meurt généralement c'est de notre faute, c'est pas la faute de la manette ou du stick comme ça pouvait être le cas précédemment. Et il y a une sensation de flow continu et d'action ininterrompue que j'ai vraiment vraiment bien aimé. Et quand tu tombes sur un boss, à la Rogue Legacy, déjà t'en as un peu chié pour arriver jusqu'au boss, pour avoir la chance de tomber dessus, tu te fais éclater comme un malpropre, tu recommences et tu te bonifies avec le temps, et j'ai trouvé que ça marchait vraiment super super bien.
Parfait, parfait. Donc PC et console, hein. On n'a pas encore de date.
On n'a pas ça, encore mais... de date de sortie. Je pense que ça va être du 2020 a priori.
D'accord. Ton deuxième jeu, c'est Paper Beast.
Eh oui, pour mettre un peu la rage à mon voisin de droite, Paper Beast qu'on a PSVR. Pu essayer pendant une vingtaine de minutes. Donc en fait, c'était le premier niveau. Donc Paper Beast, quelle si classe. Jamais vous n'aviez pas suivi l'annonce, c'est le nouveau jeu d'Eric Chahi qu'on ne présente plus, Another World, From Dust, etc.
Tout à fait.
Et en l'occurrence, c'est une exclusivité PlayStation VR. Dans laquelle en fait on est le seul représentant de notre espèce, donc l'espèce humaine a priori, qui débarque sur une planète qui dépend un peu du big data en fait, ça mélange pas mal de choses. Le premier environnement est vraiment désertique, mais si on fait attention, on regarde dans le ciel, il y a plein de chiffres en fait qui volent à travers les nuages, ça mélange le vivant, l'organique et le big data. Alors en 20 minutes de jeu, je vous avoue que j'ai pas encore pu comprendre véritablement comment ça va s'articuler. C'était plus une lettre d'intention, mais c'est un jeu en fait dans lequel on va observer son environnement, puisqu'on va se retrouver face à tout un tas d'espèces qu'on ne connaît pas, puisque ce sont des espèces complètement nouvelles de mammifères, d'oiseaux, et qui ont une démarche très particulière. Le monstre que vient de vous montrer Poufy, qui s'appelle Cage, qui est celui qui vous accueille au début, a 10 pattes par exemple, et du coup a une démarche un petit peu particulière. Et l'idée, bah, c'est d'observer le vivant, de trouver en fait des interactions en ramassant tel item. Est-ce que les animaux vont venir vers toi te manger dans la main, ou au contraire peut-être se battre ou s'éloigner. C'est voilà un jeu un peu contemplatif, forcément, assez posé, apaisant, en fait.
Et ça rend bien avec le casque.
Moi, j'ai passé un très bon moment dessus. Ouais. Pour te dire, après la fin de la démo, Eric vient enlever le casque audio et le PSVR. Et là, d'un coup, tu te dis, ah oui, merde, c'est vrai. Je suis à la Gamescom avec plein de gens autour qui gueulent, des odeurs dans tous les sens.
Laissez-moi tranquille, j'étais bien. C'est
pendant
ça
les 20 minutes où j'ai joué, j'ai oublié complètement où j'étais. T'es vraiment immergé dans un truc organique qui te demande de regarder un petit peu partout et qui t'impose aucun rythme, en fait. C'est vraiment... pour te dire, au début,
tu fais un peu comme tu veux.
Je mattais les environnements. En plus, il y avait une petite musique avec un poste de radio. Et Eric Chahi me dit à un moment donné, mais tu sais que tu peux avancer, hein. Tu vois, ok, d'accord.
Non, mais je suis bien là.
Si tu veux, vas-y, j'avance et je vais voir ce qui se passe. Mais voilà, spontanément, t'es vraiment apaisé dans le jeu. Alors, c'est encore assez mystérieux sur ce qui va se passer. C'est un jeu narratif et contemplatif, mais j'ai passé un si bon moment à observer justement ces drôles de bêtes, à essayer de trouver des interactions. Tu peux, quand tu vois un prédateur, tu peux choisir de sauver sa proie par exemple, ou de la voir se faire bouffer. Il y a, voilà, c'est un jeu un peu zoologique en fait, et fantastique en même temps, avec cette composante big data dont j'ai pas pu voir véritablement les tenants et aboutissants pour l'instant, mais je peux vous dire que j'ai passé un excellent moment en jouant à Paper Beast. Donc on a évidemment hâte de le voir arriver d'ici la fin de l'année.
Tout à fait, fin de l'année sur PSVR, donc parfait, jeu de Rick Chahi.
Et ouais, quand tu penses que ça fait quasiment 30 ans que Another World est sorti.
Ouais, m'en parle pas.
Ça nous rajeunit ou pas?
Ah non, pas trop, non.
Okay. C'est vrai?
Ouais.
Bah ok, ça ne nous rajeunit pas alors, super. Sur ces incroyables paroles métaphysiques, on va passer au troisième titre que Thomas a bien aimé à la Gamescom, donc Star Renegades.
Star Renegades, ouais, qui était un de mes derniers rendez-vous et qui m'a foutu une sacrée claque dans pas mal de dimensions. Ouais. C'est un espèce de JRPG, mais qui mélange pas mal de choses. Le système de combat, comme vous pouvez le voir, est visuellement inspiré d'Octopath Traveler, avec une espèce de 2D pixel art, mais modernisé.
Il y a une vraie patte.
Ouais. Mode 7, moi, je trouve. Vraiment, ça m'évoque le mode
avec
7
la
Super Nintendo. Hein. C'est ça qui, tout de suite, m'a tapé l'œil.
Ouais, plus modernisé, alors, quand même.
Oui, oui, bien sûr, évidemment.
Mais ouais,
pardon,
c'est beau, j'aime
bien. Moi.
Non, mais je t'en prie. Et comme on le voit à l'écran, il y a un côté stratégique en fait, où on va commencer sur une espèce de planète un peu abandonnée, et on va aller rencontrer ses premiers mobs. Et l'idée en fait, c'est qu'on se rencontre rapidement qu'il y a un espèce de tyran galactique qui a mis la main justement sur cette planète et ses environs. Et le but, bah, ça va être d'aller le défaire, de lui botter le cul et de sauver un petit peu la démocratie ou ce qu'il en reste. Mais comme il y a ce côté roguelite persistant, une fois que t'auras botté les fesses du premier tyran, bah, il faut bien que quelqu'un prenne sa place pour les runs d'après, tu vois, ça va pas toujours être le même. Et en fait, le jeu garde la trace de ce qui s'est passé, de tes affrontements. Quand tu vas perdre face à un ennemi, tu vas pouvoir le recroiser dans un run d'après, et l'ennemi va se souvenir qu'il t'a déjà défoncé. Parce qu'en fait, tu vas revivre ton perso, tu vas aller le mettre dans un espèce de caisson à la DBZ, et tu vas pouvoir recommencer un run avec le même personnage de départ.
D'accord.
Mais du coup, le type qui t'a buté, il a pu monter en grade, parce que justement, il a éliminé l'empêcheur de tourner en rond. Donc, il va avoir un visuel un petit peu différent, et il va peut-être même pouvoir arriver au sommet de la hiérarchie ennemie.
D'accord.
Et devenir le nouveau méchant. Et donc on a ce système de combat très particulier, où on a la timeline des événements, c'est-à-dire que le jeu te dit ce qui va se passer, quel ennemi va attaquer qui avec quelle attaque. Donc t'as vraiment tous les éléments, c'est à toi de trouver la bonne stratégie pour essayer de le contrer. Il y a pas mal de types d'attaques différenciées, il va falloir prêter pas mal attention à ce qui se passe, aux spécificités de tes persos. Il y a un petit côté FF6 dans la mesure où chacun des personnages que tu vas rencontrer a une mécanique qui n'appartient qu'à lui, qu'il va falloir apprendre à utiliser à bon escient, etc., etc. Et comme le jeu te file beaucoup d'infos, eh ben il est impitoyable avec toi. Tu vas avoir très peu d'occasion de régénérer ta vie, pardon. Il va falloir vraiment jouer le stratège pour pas te faire péter la gueule en combat. Moi, ça a été le cas sur le premier boss, je me suis fait complètement massacrer, parce que voilà, fallait intégrer toutes les mécaniques et j'ai pas réussi à trouver la bonne stratégie. Mais visuellement, il m'en a mis tellement plein la tronche, c'est beau, ça fourmille de détails dans les décors, il y a énormément d'inspiration très différencié.
Français, non?
C'est français, tout à fait.
Pas mal, non? C'est français.
Et vous voyez ces boss un peu gigantesques, on a de l'inspiration Miyazaki avec ce grand robot derrière. Il y a beaucoup de choses et j'ai bien aimé ce côté justement persistant des héros que tu vas retrouver ou des ennemis que tu vas retrouver, sachant que t'es comme un Fire Emblem, en fait tes personnages vont pouvoir nouer des histoires d'amour, copuler, avoir une descendance. Et ta descendance, elle pourra très bien trouver que le camp ennemi, il est super chouette,
et elle est
se côté. Barrer, mmh. aller dans le camp ennemi, et peut-être même devenir le nouveau tyran à un moment donné. Donc tu pourras peut-être affronter en mode combat fratricide ton frère, ton fils, ta fille dans un combat final. Donc il y a pas mal de choses qui s'annoncent assez sympathiques.
D'accord, effectivement.
Et bah voilà, je me répète, mais sur le plan visuel, moi ça m'a foutu une turbo claque.
Et c'est en early access, c'est ça?
Alors, Star Renegade Q2 2020, PC pour l'instant, mais console.
Il semble qu'il est en early access.
Ah bah écoute, peut-être.
Peut-être. Bah vas-y, tu feras une preview tout à l'heure.
C'est pas impossible.
Parfait. Bon, bah très bien alors.
Bah voilà, surveiller de près.
Ouais, ça t'a bien fait kiffer en tout cas, c'est cool, on va le suivre de près effectivement. Et enfin, le dernier, parce que c'était pas un top 3, c'était un top 4.
Ouais, c'était un top 4 avec encore du Cocorico.
Haven.
Pour le coup.
Avant.
Puisque oui, c'est le calendrier de l'avant en l'occurrence.
Exactement.
C'est Haven ou Heaven.
J'aurais pu le citer celui-là.
Mais prononcé différemment. Enfin, je sais pas. Ouais.
Le nouveau jeu de Game Backers.
Moi, je sais pas du tout ce que c'est. Hein.
Bah, c'est
un jeu de hippie.
Ah ouais, c'est pour ça. Alors.
Carrément, ouais.
Mais c'est vrai.
Ah ouais, c'est carrément un jeu de hippie. C'est peut-être pour ça qu'il m'a plu aussi d'ailleurs. C'est un jeu sur l'amour, vivre d'amour et d'eau fraîche.
Exactement.
C'est The Game Backers qui nous avait donné Fury il y a quelques années. Donc, un jeu super nerveux, très arcade. Et là, en l'occurrence, ils se sont
très
dit que
hardcore,
ce serait.
Ouais.
Et très hardcore. Ouais. Et ils se sont dit, bah tiens, mais si on faisait un peu tout l'inverse. Si on faisait un jeu super posé, super cool, super
peace and love. Si on faisait Journey.
Alors c'est bien plus complexe et varié qu'un Journey. C'est l'histoire de deux amoureux qui s'appellent
Yu et Kai.
Yu et Kai, merci. Mon cerveau me faisait un petit peu défaut.
Caillou.
Qui sont ouais. Caillou. Ouais. C'est des Français donc ça peut marcher. Hein. Qui sont écrasés sur une planète et qui sont déjà in love en fait. C'est un petit peu la spécificité du titre en termes narratifs. C'est
un peu de Lagon Bleu mais version.
Version Lagon, voilà,
on n'est pas au début ou à la fin d'une relation, on est vraiment en plein milieu, tu vois, où tout va bien. Enfin, le jeu commence, lui est en train de faire à manger, puis d'un coup il décide je crois où c'est elle qui a envie de lui et du coup hop, ils se mettent sur la table et c'est une tranche de vie, tu vois.
En fait, ils vivent d'amour et d'eau fraîche, quoi.
Ouais, c'est exactement ça. Il va y avoir beaucoup de tranches de vie en fait de cette histoire d'amour entre les deux qui se parlent beaucoup, qui vont des fois avoir des disputes sur tel ou tel truc, mais comme ils sont quand même écrasés avec leur vaisseau sur une planète,
ils sont obligés de se soutenir, hein, parce qu'ils sont que deux. Hein.
Ouais, bon, en tout cas au départ ils sont que deux.
D'accord, ok.
Mais ils vont avoir quelques problèmes, à savoir plus de jus dans le vaisseau, donc il va falloir un petit peu sortir, trouver des matériaux, et à un moment donné, immanquablement, comme il y a une dimension un peu JRPG, on va rencontrer des monstres.
Des Storm. Alors,
avant ça, on se balade un petit peu effectivement à la Journey, c'est pour ça que tu le citais, c'est qu'on plane. Une fois de plus, jeu de hippie, hein. On plane au-dessus du sol avec les deux personnages qui vont ou pas se tenir la main. Et le tuto du jeu, en fait, au début, t'apprends justement à planer. Le jeu se présente un peu dans ces phases-là comme un jeu de course. Tu vas avoir des espèces de virages serrés que tu vas pouvoir faire. Tu vas pouvoir exécuter des demi-tours un peu classieux et tout. Donc, il faut s'adapter déjà un peu à cette maniabilité-là. Mmh. Et une fois que t'arrives en combat, c'est hyper intéressant parce que tu vas gérer les deux. T'as un des personnages sur ton D-pad, sur ta croix directionnelle, et l'autre sur les boutons de façade. Donc là, c'était sur PS4, donc triangle, carré, croix et rond. Et tu vas pouvoir timer les attaques un peu comme tu veux. Tu peux choisir de les faire attaquer ensemble. Tu peux choisir d'en mettre un en position défensive, de faire attaquer l'autre au corps à corps, puis d'enchaîner avec une attaque à distance.
Et tu peux pas en utiliser qu'un seul et laisser l'autre faire tout seul, non?
Bah, tu peux laisser l'autre glander si tu veux, mais du coup, tu perds 50% de ta capacité offensive.
Et attaque pas tout seul, donc.
Sachant qu'à des moments, ils vont pouvoir attaquer vraiment tous les deux. Donc, il y a une petite manip à faire, timer, etc. Et comme on est toujours dans un jeu peace and love, tu vas pas défoncer les ennemis, en fait. Tu vas enlever le mal qui est en eux. Une fois que t'as vidé
c'est ce qu'on voit dans la vidéo là, effectivement.
Ouais, c'est ce qu'on peut voir pendant les combats. Une fois que t'as vidé leur barre de vie, ils sont un petit peu à ta merci et il va falloir les purifier. C'est une des commandes que t'as en combat. Tu leur retires le mal qui est cette espèce de truc rouge,
de lave rouge bizarre qu'il y a par terre,
qui gangrène un petit peu la planète. Et du coup après, ils redeviennent tout gentils, ils s'en vont et t'as tué personne.
Ouais. Ils font la fête et ils dorment ensemble et tout.
Est-ce que tu as pu apprendre si c'était pensé exclusivement pour le solo ou s'il était possible d'incarner chacun des personnages à deux joueurs?
Non, tu veux jouer en couple, toi.
Ouais.
Bonne question de la part de Tiger.
Non, pour le coup, c'est a priori un jeu solo.
D'accord, ok.
pensée comme une aventure qui va te poser entre deux gros jeux. C'était un peu l'idée des développeurs, c'est de dire on essaye de se caser entre un cyberpunk qui va te prendre un temps infini et un Death Stranding très ambitieux, etc. Là, c'est la petite pastille qui te fait respirer. Ça va être du 8-10 heures hein, en termes de durée de vie. Donc voilà, un truc qui va pas être trop chronophage non plus. Et là, on voit justement le système de combat avec les deux personnages et les quatre types de commandes. Donc
mais,
voilà.
Mais c'est... donc porté aussi par la narration, ça sera pas genre façon No Man's Sky ou juste c'est le plaisir de la découverte ou quoi.
Non, il y aura des
là,
vraies phases.
Récit, ouais.
Il y aura des vraies phases de dialogue.
D'accord.
En anglais ou en français parce que je
le scénario pilote. Enfin, te dit ouais, voilà, il faut. En gros, le jeu va te dire à un moment donné, il faut aller là-bas pour faire avancer l'intrigue. Tu peux y aller,
ouais.
Tu peux prendre ton temps et explorer.
D'accord.
Et aller faire du combat et récolter des fruits parce qu'il va falloir cuisiner aussi pour survivre. On a vraiment le côté
ah ouais,
un tout petit
d'accord.
peu survivaliste avec l'énergie du vaisseau, la nourriture, etc., etc. Mais qui seront à chaque fois le prétexte à tout un tas de scènes plus ou moins amoureuses entre les deux puisqu'il y a toujours... Il y a toujours cette émotion entre les deux personnages qui vont avoir plein de petites attentions assez fines, je trouve. Mmh. Et sur chaque écran de chargement, par exemple, t'as un visuel d'une tranche de vie. Juste
d'accord.
une image, mais qui te permet de creuser encore un petit peu l'histoire de ce couple qui n'est ni au début ni à la fin de son histoire.
Parfait.
Donc très sympa. Et pour couronner le tout, ils sont évidemment véganes, puisque sinon ça irait pas
bah,
dans
ça, pas
le tableau global. Quoi.
Nous sommes dans l'air du temps, tout à fait,
voilà.
Monsieur. Eh bien, merci Thomas. C'était donc Haven, sorti en 2020 sur PC, PS4 et Switch. Pas de date précise, mais
bien folle.
Ça sera l'année prochaine. Et bien voilà, hein, je sais pas si vous voulez rajouter autre chose sur cette Gamescom 2019, qui restera peut-être pas dans les annales, mais bon, en tout cas, il y a eu quand même des choses hein, avec l'ONL, pas mal de jeux indés, des jeux français, Kojima, Geoff
Keighley.
Beaucoup
Kelly. De monde. Beaucoup toujours
un,
ouais.
toujours
ouais.
un public de malade mortel sur place, je pense.
Alors ce qui sera peut-être moins le cas
l'année prochaine.
Ouais. L'année prochaine.
J'ai vu ce que t'avais écrit effectivement.
Ah puis c'est Dopa surtout qui a fait un article
Dopamine, pardon,
assez
ouais.
détaillé
pardon.
Sur les dates de l'année prochaine voilà. qui vont tomber juste après la rentrée allemande en fait.
Ouais, c'est ça. Ils seront en cours et du coup il y aura.
Sachant qu'il y a beaucoup
jour.
beaucoup de mineurs qui
oui,
arpentent la Gamescom et du coup ils vont mettre en vente des billets pour l'après-midi genre
tout
à partir de 14 ou 15 heures je crois un truc comme
ouais,
ça.
C'est ça.
Donc l'affluence va forcément être un petit peu différenciée. Je pense qu'ils veulent éviter les hordes. De monstres qu'on voit sur
c'est toujours
les
le cas encore,
ces célèbres vidéos ouais, tu vois les gens le jour de l'ouverture
Gamescom,
au public
quand je vois
tu
les,
vois une marée humaine qui se presse aux portes et qui attend 10 heures pour pouvoir passer les portiques
putain, c'est
flippant vois. Quand tu le vois depuis la salle de presse tu dis oh là là putain il y a tous ces gens
qu'est-ce
compressés
qui va se passer t'imagines s'ils étaient tous fous.
Bah non, ça va,
c'est des hordes de fous.
Ouais, non, et on n'est pas à Paris, mec. Hein.
On
est en Allemagne, c'est les Allemands, ils sont gentils, ils sont disciplinés et tout.
Ouais, ok, d'accord.
Je ne sais pas. Jamais tu t'es fait emmerder ou quoi que ce soit pendant
ah, si,
que tu faisais des plateaux.
Si, je me suis pris la tête. Ah oui, bien
ah,
sûr.
Ouais, c'est
oui.
vrai.
Donc, ouais,
bah, raconte,
de ce côté-là, les Allemands, ils m'ont laissé un bon souvenir aussi. Hein.
C'est vrai.
Oui, ils
ah,
sont
cool.
Ils sont chiants de temps en temps, mais je veux dire, si on prend la globalité du public, franchement.
Oui, par rapport au nombre, tu veux dire.
Je préfère une foule comme ça en Allemagne qu'à Paris, quoi.
Ah oui, par rapport à Paris, mais pour bosser, je pense aussi à l'E3, tu vois, par exemple. À l'E3, t'as pas des milliards de personnes qui vont venir te faire chier pendant que t'es en train de tourner.
C'est exact.
Voilà.
Oui, mais ça, c'est partout dans tous les pays du monde.
Donc, l'image de l'Allemagne carrée, qui est
bien
dans le rang
et tout,
faut arrêter.
Ils garent leurs trottinettes le long des immeubles, monsieur. Ils ne les foutent pas en plein milieu du trottoir.
Ok,
voilà.
C'est classe.
Alors, les Allemands, je garde
leur gouvernement plus de 6 mois. C'est incroyable.
Ça, c'est pour l'Italie, ça.
Oui, Salvini, si tu nous regardes.
Si nous écoutes,
ça repart.
Merci.
Bon, bah, parfait. Alors, c'était quand même bonne Gamescom au final ou pas, globalement? Pour résumer, ça va ?
Bah moi j'ai vu des jeux intéressants, j'ai rencontré des gens sympathiques et d'ailleurs il y a encore plein d'interviews qui vont arriver sur
exactement.
Gameblog aussi, la Gamescom n'est pas terminée.
Ça fait pas.
Et il y a mine de rien quelques jeux qu'on a vu aussi d'Opa et moi qui sont sous embargo. Donc
oui,
il y a des jeux qui ont été dévoilés là-bas pour la première fois dont on va pouvoir vous parler qu'au mois de septembre.
Donc là c'est tuné
donc,
sur Gameblog.
Voilà, il y a encore des choses qui vont arriver
tomber.
De la Gamescom même le mois prochain.
Tu vas pas balancer des biscuits là ?
Non, ça
non,
va.
Non,
bon,
là, pas.
Non les interviews arrivent, vous inquiétez pas.
Tout à fait. Eh bien, merci
si, je peux
tous.
Dire que l'un des jeux a
à
filé à Camille
non,
une érection du feu de Dieu. Si ça peut vous donner un petit indice, voilà.
Petit teasing de la part de
voilà.
Thomas, attention.
Der grosse Erektion.
Der grosse Erektion.
Je veux pas savoir
incoming.
Ce qui peut lui causer ça.
Un justicier dans la ville, le jeu, c'est ça?
Non.
Ah. Un jeu allemand avec des chars, non, c'est pas ça. Avec la Panzer Division.
Qu'est-ce que ça pourrait être?
Bon, bah pendant que Plume cherche, nous on va vous quitter, hein, on va vous dire au revoir. Et puis on vous dit à très très bientôt pour un nouveau podcast entre guillemets normal hein, pour la reprise de la prochaine saison.
Ouais, c'est quand ça d'ailleurs?
Je ne sais pas, on verra. Okay. C'est dans pas très très longtemps, c'est sûr.
Ouais, vers novembre, non? En même temps que la V4.
Le temps qu'on récupère possible. Et tout ça, machin. Qu'on récupère aussi tout le monde parce que tout le monde n'est pas là. Mais voilà, bah, merci encore pour votre fidélité. J'espère que ça vous a plu, vous. Dites tout ce que vous en pensez, hein, la Gamescom sous la vidéo de ce podcast.
Vos jeux préférés.
Hors série. Vos jeux préférés, votre top. Est-ce que Plume faisait pas trop tiep, etc., etc.
Réponse si.
Est-ce que Tiger est pas trop fatigué? Est-ce que Thomas est trop roux? Est-ce que Camille a trop de flingues chez lui? Voilà. Bref. tout ça, n'hésitez pas à nous en parler. Et puis on se retrouve très prochainement donc pour un podcast de la nouvelle saison avec Plume qui va tout hoster. Non, je déconne.
Pourquoi pas?
Bon, on verra. Bref, merci à tous et à toutes et puis à très 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 bientôt. Merci. Ciao.
Des bisous.
Salut.